C'est le Volvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Karine, bonjour à tous. 6 mois de mandat pour quoi faire? La France retrouve la présidence tournante de l'Union Européenne ce matin. Paris a le champ libre pour imposer ses priorités aux 26 autres États membres. Et ça, Emmanuel Macron y tient beaucoup, même s'il y a la présidentielle dans 4 mois. Nous appelons Bruxelles dans quelques instants. Bonne année 2022 à tous. Nous espérons que vous avez pu fêter malgré le contexte sanitaire. Vous étiez quand même quelques milliers sur les Champs-Élysées à Paris cette nuit. Pas de fête et pas de répit en revanche dans les hôpitaux comme l'an dernier. Les soignants étaient sur le pied de guerre. Et puis, vous allez vous en apercevoir cette année, le plastique n'emballera plus une trentaine de nos fruits et légumes comme les tomates, les clémentines et les navets. Voilà l'une des nouvelles règles qui entre en vigueur aujourd'hui. Sans oublier le sport, des rugby sur le pré et des pilotes auto dans les sables saoudiens pour cette première journée de l'année. Laetitia Bernard nous rejoint tout à l'heure.
Et puis à partir de 8h20, nous discuterons du bonheur. Vaste question, celle des vœux, des bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Avec Marianne Chaillant, notre invitée, professeure de philosophie à Marseille. C'est une spécialiste de pop culture et elle a publié cet automne un essai très intéressant. Où donc est le bonheur aux éditions des Équateurs.
France Inter. Le drapeau européen flotte sous l'arc de triomphe ce matin. 14 ans après, la France retrouve la présidence tournante de l'Union européenne. Et ça, Emmanuel Macron, élection présidentielle ou pas, il y tient beaucoup. Présider l'Union européenne, ça veut dire maîtriser l'agenda et les ordres du jour des réunions de négociation. Nous sommes avec Angélique Bouin à Bruxelles. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Alors le président Macron a des priorités pour cette présidence qui va donc durer 6 mois.
Alors parmi les textes qui sont déjà sur les rails, il y a les 2 directives qui visent à réguler les plateformes numériques et celle qui vise à limiter la concurrence déloyale des GAFAM pourrait bien être adoptée. Emmanuel Macron est également attaché à une Europe plus sociale, le cadre européen qui permettra d'instaurer des salaires minimums dans les États membres, une sorte de SMIC mais à minima, fait à peu près l'unanimité, la négociation devrait bien avancer. La France peut aussi espérer sous sa présidence un accord entre les 27 sur l'ajustement carbone aux frontières, ce dispositif qui permettra de taxer les importations de produits qui ne sont pas fabriqués selon nos normes environnementales et sociales, mais la négociation avec le Parlement sur l'ensemble des textes qui sont liés aux engagements climatiques européens a pris du retard et s'annonce difficile.
Voilà pour les textes déjà en négociation et la France veut aussi mettre sur la table ses projets.
Oui, comme le président français l'a expliqué lors de sa conférence de presse de décembre, il veut aussi faire avancer ses partenaires sur la réforme de l'espace Schengen. Mais le dossier est explosif, tout comme celui d'une future défense commune. Paris va organiser pendant les prochains mois des échanges sur le sujet sans qu'on attende de décisions très concrètes à court terme. Le président lancera aussi la réflexion sur la réforme des règles communes d'endettement. Un agenda très chargé, soumis évidemment aux imprévus et qui pourrait bien dérailler en cas de crise institutionnelle avec la Pologne ou la Hongrie. Deux pays qui n'ont pas réglé leur sortie de route en termes d'état de droit et qui pourraient marchander leur soutien sur certains dossiers.
Merci Angélique Bouin, correspondante de France Inter à Bruxelles.
Et chez nos voisins européens, cette présidence française fait réagir car elle va percuter une séquence électorale.
La présidentielle en avril, l'eurodéputé écologiste belge Philippe Lamberts craint tantôt un désintéressement pour la fonction, tantôt une instrumentalisation de la tribune qu'offre la présidence de l'Union européenne.
À partir du mois de mars, je pense que les autorités politiques françaises seront occupées à autre chose qu'à la présidence de l'Union et ce n'est pas sain. Et par ailleurs, c'est le risque combiné d'instrumentalisation dans le sens où il peut être tentant pour le pouvoir en France d'utiliser la présidence française de l'Union comme argument électoral. Et donc, ça peut induire dans d'autres États membres la volonté, si le président Macron veut instrumentaliser la présidence, eh bien, on va lui dénier cette instrumentalisation en retardant des accords sur des dossiers. Donc, c'est pas sain d'accepter une présidence dans un contexte pareil.
L'eurodéputé écologiste belge Philippe Lamberts estime donc qu'Emmanuel Macron aurait dû refuser cette présidence européenne. Emmanuel Macron, dont on ne sait pas encore s'il sera candidat à sa propre succession, il n'en a rien dit hier lors des traditionnels vœux de fin d'année, même si il y avait quelques formules sibyllines. Extrait.
Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur.
Emmanuel Macron hier, lors de ses vœux, durant lesquels il s'est dit résolument optimiste en espérant la fin de l'épidémie de Covid en 2022, même s'il le concède, les prochaines semaines seront difficiles, plus de 2000... plus de 230 000 nouveaux cas recensés en France hier et un réveillon du nouvel an un peu tristoun encore cette année. Il faut remettre le masque en extérieur dans 49 départements. Si vous étiez à Paris hier soir, vous ne pouviez pas danser dans les bars ni boire de l'alcool sur la voie publique. Mais ça n'a pas pour autant démotivé certains Français qui se sont promenés sur les Champs-Élysées, Valentin Ouinato.
Rassemblés sur cette avenue interdite aux voitures hier soir, au loin, derrière les cordons de CRS, on aperçoit l'Arc de Triomphe. Pour y accéder, il fallait porter son masque et passer par les points de contrôle de police. Résultat, des queues de plusieurs dizaines de mètres s'allongent et ça en a découragé certains.
Vous n'essayez pas d'aller jusqu'à l'Arc de Triomphe ?
Non, messieurs. Il y a trop de contrôle.
Pas de concert ni de feux d'artifice cette année sur les Champs-Élysées. Peu importe, pour Manuela, ce qui compte, c'est avant tout le symbole.
Eh ben, j'ai 50 ans et c'est la première fois de ma vie que je viens sur les Champs 31. Mais bon, on est content d'être là et on est bien. On est
et puis à l'approche des 12 coups de minuit.
3, attendez, je regarde. 2, 1, 0. Ça y est, c'est terminé, Valentin. Nous
bonne
sommes
année,
en 2020.
Voilà, des confettis ici sur les Champs-Élysées.
Et certains sortent même la traditionnelle bouteille de champagne.
Bonne année.
Happy New Year.
Happy New Year.
Voilà, reportage de Valentin Ouinato. Quelques débordements à signaler à Strasbourg, 30 interpellations cette nuit. Et puis une rave party a lieu en ce moment dans Lyon, plus d'un millier de fêtards et de nombreuses forces de l'ordre. Elles n'ont pas encore intervenu. Des Français à la fête et d'autres au travail, en particulier des soignants dans les services d'urgence, dans les hôpitaux. La nuit de la Saint-Sylvestre est souvent chargée. Et là, cette année encore, avec le Covid, il faut s'organiser. Sandra Lekovitch est médecin urgentiste à Vesoul.
On a un service d'urgence qui est plein. Tous les box d'examen sont pleins. Le déchocage est plein. On a une salle dédiée aux patients Covid. Hein. Je veux dire, on a un secteur là qui se remplit. Donc ça, on se retrouve comme sur le plan, on va dire, national, en croissance. Hein, je veux dire, avec des patients qui viennent de plus en plus nombreux tous les jours, avec des dépistages positifs à l'accueil. Alors, des gens qui viennent pour une complication de leur maladie Covid, mais d'autres qui viennent pour d'autres symptômes et qui sont dépistés à l'accueil. On est dans une courbe croissante de jour en jour. Donc là, on se restructure aussi au niveau de l'hôpital pour faire de la place hein, pour ces patients qui sont de plus en plus nombreux.
Le docteur Sandra Lekovitch, médecin urgentiste à Vesoul, réaction recueillie par Jean-François Hernandez, France Bleu Besançon. Et sachez qu'hier, le Premier ministre Jean Castex a passé le réveillon dans un service de réanimation à l'hôpital Cochin à Paris. Au moins 12 morts en Inde cette nuit, mouvement de foule dans un sanctuaire religieux du Cachemire. Beaucoup de fidèles hindous s'y sont pressés pour le nouvel an. Du changement à la mairie de New York aujourd'hui, investiture du démocrate Eric Adams, deuxième maire noir à diriger New York. Il succède à Bill de Blasio.
Et puis comme tous les 1er janvier, des changements aussi en France. Une nouvelle législation sur le recyclage et la pollution plastique notamment.
Depuis minuit, il est interdit de détruire des produits invendus non alimentaires, les vêtements par exemple. Et puis certains emballages plastiques sont prohibés désormais. Là, c'est l'Iakire, ça concerne les produits alimentaires et ça doit forcer les industriels à plus de transparence.
Une trentaine de fruits et légumes frais ne peuvent plus être emballés sous plastique, idem pour les publicités ou les journaux. Des indices de réparabilité doivent être affichés sur les produits et les industriels sont soumis à une plus grande transparence. C'est une avancée importante pour Juliette Franquet, directrice de l'association Zero Waste.
On ne peut plus appeler un produit compostable si c'est seulement en unité industrielle. Si on voit écrit sur un article qu'il est recyclable, il faut que les conditions à la fois techniques et opérationnelles soient bien remplies. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait y avoir marqué recyclable, mais en fait, ce n'était pas réalisé parce qu'il n'y avait pas de logistique ou d'usine. Et du coup, on croyait que c'était recyclé alors que ça ne pouvait pas l'être.
Et ces nouvelles dispositions devraient contraindre les entreprises à revoir leur manière de produire pour limiter les déchets. Encore faut-il que les lois soient appliquées.
Par exemple, depuis janvier dernier, les pailles, couverts et assiettes en plastique à usage unique sont interdits dans les supermarchés. Et pourtant, on en retrouve encore aujourd'hui. Ça veut dire que les entreprises ne respectent pas les lois et que parfois des pénalités sont prévues. mais rarement appliquée. Donc il faut vraiment maintenant que l'État mette en œuvre des mesures de contrôle de toutes ces lois.
D'ailleurs, un délai de 6 mois est prévu, par exemple, pour permettre d'écouler certains stocks d'emballages plastiques, de fruits et légumes. Et des dérogations existent déjà pour les champignons, les endives ou les pommes de terre.
C'est Célia Kiret. Et d'autres changements dans notre vie quotidienne. Les prix du timbre augmentent, plus 4,7% augmentation des cotisations des complémentaires santé, aussi de 7 à 10%. Le SMIC, lui, est revalorisé et passe à 1 269 € net. À retenir aussi la contraception gratuite pour les jeunes femmes jusqu'à 25 ans désormais. Et puis, les Bordelais lèvent le pied en ville ce matin. La limitation de vitesse est passée à 30 km/h.
Il est 8h10, place au sport.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Des rugbyman sur les terrains ce premier jour de l'année.
Et oui, ceux du Stade français de Perpignan, de Clermont et du Stade toulousain. C'est le début de la 14e journée de Top 14. Et pour l'instant, toutes les rencontres sont maintenues, même si la menace du Covid plane toujours sur la compétition. À Toulon notamment, on a indiqué hier soir avoir des cas positifs dans l'effectif. Il y a donc quelques doutes sur la tenue du match face à Montpellier demain. Pour les autres, a priori, c'est bien le retour au jeu. Mais la préparation, elle est loin d'être idéale, avec un championnat déséquilibré entre ceux qui ont pu jouer et ceux qui composent depuis des semaines avec le Covid, Fanny Lechevestrier.
Avec certaines équipes comme le Stade français qui n'ont plus disputé le moindre match depuis 3 semaines. Le week-end dernier, c'est à l'aéroport que les Parisiens ont appris l'annulation de leur déplacement. Et après l'isolement de tout l'effectif, ils s'apprêtent enfin à rejouer, mais avec seulement 2 entraînements dans les jambes. De quoi être un peu crispé, reconnaît l'entraîneur des arrières, Julien Arias.
Se plier aux règles qu'on nous impose. Il a fallu se séparer jusqu'à mercredi pour de nouveaux tests. Donc voilà, la préparation, les 15 derniers jours, elle a été un peu tronquée, compliquée.
Avec un manque de compétition qui pourrait coûter cher. Surtout que Sagas, le manager de Toulouse, Hugo Mola, lui aussi en panne de match, tous ces reports auraient pu être évités avec un peu plus d'anticipation.
Je trouve juste qu'on n'apprend pas trop de notre passé. On a fonctionné comme si de rien n'était depuis quelques temps. Plus de protocoles concernant les joueurs. Donc on va essayer, nous, d'être un peu moins con que la moyenne. On ne nous a pas demandé, mais on s'est testé.
Des tests désormais remis au goût du jour dans tous les clubs, même pour les joueurs vaccinés. Le nouveau protocole de la Ligue prévoit également le maintien des rencontres tant que les équipes ont 23 joueurs, dont 15 professionnels disponibles. À ce jeu, celles qui ont de gros effectifs pourraient beaucoup mieux s'en sortir que les petits budgets.
Des précisions signées Fanny Lechevestrier. Et le programme pour ce samedi, Stade français Perpignan à 19h et à 21h05, Clermont face aux champions en titre, le Stade toulousain.
Départ aujourd'hui de la 44e édition du Dakar en Arabie Saoudite.
Et une nouvelle catégorie fait son apparition sur le célèbre rallye, celle des véhicules hybrides ou 100% électriques. L'un de ceux qui sera au volant de ces voitures n'est autre que le champion français, 14 fois vainqueur de la course, Stéphane Peter-Hansel. À 56 ans, c'est cette innovation qui l'a décidé à revenir pour une nouvelle édition. Son véhicule conçu par la marque allemande Audi possède 3 moteurs, 2 moteurs électriques et 1 thermique.
Ouais, alors c'est sûr que dans l'approche, au fond de nos têtes, c'est toujours pour essayer de gagner, mais là, on sait que ça va être probablement compliqué. Mais en tout cas, le projet est tellement intéressant que dès aujourd'hui, je peux dire qu'on n'est pas déçus. On travaille avec des gens qui ont des compétences énormes, qui nous montrent des nouvelles technologies, qui nous apprennent plein de choses. Et déjà, que pour ça, moi, je suis content de faire partie de ce projet. C'est déjà une victoire d'être au départ de la course et d'avoir une voiture qui nous semble, à nous, en tout cas, intéressante et performante.
L'arrivée des voitures hybrides ou électriques qui préfigurent peut-être l'avenir du rallye tout-terrain avec une décarbonation des véhicules. Bon, pour leur départ du Dakar 2022, donc c'est aujourd'hui, l'arrivée, elle est programmée le 14 janvier. On va terminer par une devinette, si vous le voulez bien, Raphaël okay. Et Karine. Combien de calories, à votre avis, est-ce qu'on ingurgite sur un repas de fête un vrai, quand on ne fait pas semblant.
C'est comme les jouets de Noël, ça se compte par milliers.
Ouais, pas mal. On est au moins à 2000 on peut même monter à 3000 d'après une étude britannique. Non, mais là, faut y aller franchement. Faut donner le meilleur de soi-même, apéritif, entrée, enfin tout ce que vous voulez, les desserts, plein de fois. Et alors maintenant, la vraie question qui en découle, c'est
oui, parce que le lien avec le sport, pour l'instant, on le voit pas.
Attendez, bougez pas.
Dites-nous
quelle quantité de sport, quel effort physique faut-il faire pour éliminer autant de catégories.
Oh là là.
Un petit peu de vélo, hein.
Ouais. Et puis du rameur.
Alors le plus simple, c'est de courir un marathon, parce que en
un marathon, vous éliminez à peu près autant de calories que sur un repas de fête. Et si vous êtes monté à 3000 calories, le marathon, il faut le courir en 3 heures.
Ça ne va pas réconcilier avec le sport, tout ça.
Et bien noté. Merci Laetitia Bernard. Le Dakar, comme nos calories à perdre, hein, tout ça. Ce sont les traditions du 1er janvier, comme le concert du Nouvel An à Vienne. Mm-hmm. 11h15, notez bien, comme toujours, on va beaucoup jouer le répertoire de Strauss. Cette année, l'orchestre sera dirigé par Daniel Barenboim. Voilà, la matinale continue avec à la baguette Karine Bécard.
Et sachez qu'on va en reparler tout à l'heure avec Anna Sigalevitch, évidemment. Merci à tous les deux, Laetitia Bernard et Raphaël Delvolvé. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Alors Jean-Pierre Hamou, on vous retrouve, c'est un début d'année tout doux, tout doux, tout doux et partout. Et ce matin, attention au brouillard tout de même.
Beaucoup de brouillard pour commencer l'année, en particulier entre la région parisienne et la Bourgogne, mais aussi le long de la Garonne et autour de la Grande Bleue. Soyez prudents sur la route, la visibilité est souvent inférieure à 200 mètres. Dans les autres régions, votre matinée sera déjà bien ensoleillée. Cet après-midi, la grisaille restera d'actualité du côté du Val-de-Saône, près des frontières du Nord-Est et vers le littoral méditerranéen. Partout ailleurs, vous allez profiter d'un bon ensoleillement, excepté vers le Finistère où les nuages vont gagner du terrain, apportant quelques gouttes d'eau et plus tôt en fin d'après-midi. Côté température, n'attendez pas plus de 7 degrés à Ambérieu, 8 à Lyon, 10 à Dijon, 12 à Nîmes et 13 à Marseille. Ça sera plus doux ailleurs. Prévoyez 14 à Paris, 15 à La Rochelle, 17 à Toulouse, 20 à Bordeaux et jusqu'à 23 degrés à Tarbes.
Merci Jean-Pierre Hamou de Météo France.